Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport. Très heureux de vous retrouver et surtout, n'en prenez pas ombrage, mais je suis heureux. Je revis de retrouver mon ami, mon confrère, mon compatriote.
Ça fait beaucoup pour un seul homme.
Mon amour caché, Monsieur Cyril Morin. Comment ça va, Cyril ?
Salut Martin, ça va et toi ?
Bah, ça va super. On vit une grosse semaine, une belle semaine de Ligue des Champions. Déjà un club français qualifié pour les demi-finales, on va y revenir, le Paris Saint-Germain, peut-être un deuxième, qui sait, en cas de victoire face à Manchester City, on parle bien sûr de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, on va parler Ligue des Champions dans ce FC Stream Team. On espère que vous allez vous régaler. Nous déjà, rien qu'en préparant, ce matin, ça a été une des plus belles matinées de ma vie. J'ai appelé Cyril, 7h du matin, le mec était déjà réveillé, ça faisait 5h.
Depuis je préparais mes notes, exactement.
Il bossait. Le mec, il m'a dit, vas-y, Lyon, t'as vu le schéma tactique là qui pourrait être, tac, bim, boum. Cyril a bossé comme jamais, donc il va être grandiose. On part peut-être du sommaire, mon ami Cyril. Qu'est-ce qu'on
Bien
va,
sûr. Bah, on va d'abord, parler On va commencer évidemment par évoquer la qualification miraculeuse du Paris Saint-Germain en demi-finale. Revenir un petit peu sur l'Atalanta, mais surtout se projeter vers Leipzig, voire plus loin, et cette possible finale qui semble tendre les bras au Paris Saint-Germain. Et on se penchera notamment sur le cas d'un attaquant de pointe qui ne remplit pour l'instant pas les critères, un certain Mauro Icardi.
Ouais, on se demandera si aujourd'hui Paris est favori, Paris peut y aller, Paris peut gagner. Voilà, et on se posera une question inverse pour l'Olympique Lyonnais qui affronte Manchester City. Est-ce que Lyon peut éviter la fessée ? On sait sur le papier, en tout cas, c'est sans doute le quart de finale le plus déséquilibré. Ouais. Lyon est sans doute l'équipe la plus faible du plateau, hein, si on prend en compte notamment sa saison en Ligue 1. Ouais. Est-ce que Lyon peut éviter la fessée ? Est-ce que Lyon peut se qualifier aussi ? Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Et on terminera avec
Blaise,
l'ami Blaise.
On terminera évidemment avec le transfert de Blaise Matuidi vers l'Inter Miami. On ne parlera pas tant de MLS que ça. On parlera davantage d'Euro 2021 et de la place possible de Blaise Matuidi en équipe de France, grosso modo. Est-ce que Blaise Matuidi a fait une croix sur les Bleus avec ce choix de rejoindre la MLS ?
Vous êtes prêts pour une demi-heure de grande expertise de Cyril Morin, pour le Cyril Morin Show. J'espère que vous êtes prêts. Attachez vos ceintures si vous êtes en voiture. Serrez vos running si vous faites un footing.
C'est beau.
Levez-vous dans votre canapé si vous écoutez ça tranquille chez vous.
Et, devant un ventilateur face à la chaleur.
Exactement. Et essuyez votre serviette si vous êtes à la plage, parce que Cyril Morin, ça va être du grand art aujourd'hui. Dis-nous d'ailleurs, Cyril, si vous nous retrouvez sur les podcasts, comment ça se passe, si les gens veulent juste nous écouter et pas nous voir, ce que je peux comprendre quand je vois nos gueules aujourd'hui.
Bah, comme d'habitude, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute tous les vendredis. Spotify, Acast, Deezer, Apple Podcast, c'est un peu une liste que vous commencez à connaître. N'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires, à nous mettre des petites étoiles. Ça nous permet d'agrandir la communauté. Ça nous permet d'avoir d'autres idées aussi. Si vous voulez parler de Dijon ou d'autres, on saura en tenir compte. Et puis, peut-être pas Dijon, on verra. Et voilà. Et sinon, évidemment, Martin, si vous voulez voir, comme chaque semaine, les meilleurs extraits de cette émission, ils seront à retrouver sur eurosport.fr en vidéo.
Allez, on va démarrer peut-être avec le Paris Saint-Germain. Paris qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une première dans l'histoire du PSG version QSI. On a l'impression que Paris a crevé son plafond de verre. Enfin, une victoire 2-1 face à l'Atalanta Bergame, dans la douleur évidemment, acquise dans les dernières minutes quart de finale. Cyril, la question que je me pose aujourd'hui, c'est voilà Paris en demi-finale avec un tableau relativement dégagé, puisque c'est Leipzig qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale. Leipzig n'a pas, on va dire, le prestige d'un Atlético Madrid, n'a pas la force de frappe d'un Bayern Munich ou d'un Manchester City, ou même d'un FC Barcelone d'ailleurs, n'a pas Messi, n'a pas Ronaldo. Est-ce que Paris peut aller au bout, selon toi, de cette compétition, Cyril, ou est-ce que ça a été trop pauvre dans le jeu face à l'Atalanta?
Oui, Paris peut aller au bout, très clairement, parce qu'évidemment, il y a cette équipe de Leipzig qui n'a aucune expérience de ce niveau-là. Leipzig qui est en plus privé de Timo Werner. Alors, c'est une très belle équipe, mais c'est aussi une équipe qui correspond parfaitement aux qualités du Paris Saint-Germain. C'est une équipe déséquilibrée, donc il y aura beaucoup d'espace. Et quand on voit l'entrée de Kylian Mbappé, on se rend compte que ça peut faire des dégâts derrière chez les Allemands. Et plus que Leipzig, je pense qu'il y a eu un déclic au Paris Saint-Germain cette saison. Alors, il y a ce match contre l'Atalanta, mais si on remonte même un peu avant et si on écoute Thomas Tuchel, post-Atalanta, il expliquait que la clé, c'était Dortmund. Et ce match retour au Parc des Princes à huis clos qui avait agi un peu comme un détonateur et comme un déclic dans la tête des Parisiens sur le côté. Il ne faut plus avoir peur. Maintenant, on est un groupe, on avance ensemble. Et je pense que la victoire face à l'Atalanta et surtout le scénario face à l'Atalanta et typiquement ce qui peut permettre à Paris d'exorciser tous ces démons et de repartir complètement sur quelque chose de nouveau, parce que là ils ont vu le gouffre de tellement près qu'ils peuvent, c'est pas qu'ils peuvent plus retomber plus bas, mais en tout cas ils savent ce que c'est et ils regardent tous vers la même direction. Moi je pense que ça peut être un déclic mental, ce qui faisait tant la faiblesse du Paris Saint-Germain ces dernières années.
Bah, c'est clair qu'on n'a jamais remis en cause sur le terrain le talent des Parisiens.
Bien sûr.
Ce qui n'allait pas jusqu'ici, tu le disais, c'est qu'ils se cognaient à un plafond de verre, ils se cognaient à leurs démons, ils se cognaient à leurs angoisses. On se souvient de Dembaba, on se souvient des deux remontadas, que ce soit Barcelone ou Manchester United, pour ne parler que de ça. Ouais. Et il y avait un espèce de syndrome qui s'était installé. Moi, j'ai toujours dit que pour vaincre ça, il fallait un match fondateur. Comme il a fallu à l'équipe de France un match fondateur face à l'Ukraine, on a vu tout ce qui a découlé après. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui défendent cette thèse-là, c'est-à-dire qu'il faut un élément qui déclenche le reste. Sur le terrain, tout ça, c'est très important d'avoir des joueurs, évidemment, de classe mondiale, des joueurs qui font la différence, etc. Mais le football, c'est un peu plus que ça, surtout dans un tournoi qui se joue aussi ramassé, sans match aller-retour, etc. Là, on est dans un format Coupe du Monde, avec des matchs coup près tous les 3-4 jours. Et donc, il faut un état d'esprit, quelque chose qui dépasse le terrain. Ce qu'a montré le Paris Saint-Germain sur le terrain, ce n'était pas terrible. Ce qu'il montre en dehors du terrain, en revanche, c'est fondamental et c'est capital. C'est pour ça que pour moi, il y a ce petit élément en plus, ce petit supplément d'âme qui fait qu'effectivement, le Paris Saint-Germain a une bonne tronche de vainqueur de la Ligue des Champions cette année. Moi, ça me rappelle, alors toute proportion gardée, évidemment, je pense qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond, parce que je l'ai mis sur Twitter, je me suis fait assassiner, mais bon, bref. C'est une équipe qui me rappelle un peu les Bleus de 2018, les Bleus de Deschamps. On sent une cohésion, en fait, autour de cette équipe. D'ailleurs, une cohésion qui vient de Neymar. Je pense qu'il a une part prépondérante dans cette cohésion-là. Il ne fait plus la tronche, il veut amener tout le monde dans le même sens et il fait preuve d'un leadership, pas que sur le terrain, mais aussi en dehors, en organisant des choses chez lui, etc., qui cimente le groupe finalement. On ne parle plus trop de clans, etc. Alors, bien sûr, dans le jeu, ce n'est pas toujours génial, mais comme l'équipe de France en 2018, ce n'était pas toujours génial dans le jeu. En revanche, il y a une vraie équipe, ça ne suffit pas pour aller au bout. Il faut aussi des stars, comme il y en avait en équipe de France. Là, évidemment, on va pas faire un dessin, mais Neymar et Mbappé, ils sont fondamentaux. Et ce PSG-Atalanta, ça peut être un peu le France-Argentine. Tu es mené, tu es dos au mur. Si tu perds, c'est la catastrophe. Il y a des têtes qui vont tomber, mais tu reviens avec un gros caractère. Ouais. Tu es en grosse galère, évidemment, mais tu reviens au caractère, tu renverses tout. Et Choupo-Moting, c'est un peu pavard, quoi. Voilà.
Alors,
si on caricature. Mais voilà, je ne veux pas étendre cette comparaison.
Non, non,
mais il y a ce petit côté équipe, ciment, qui, moi, me fait dire que ça peut aller loin.
Alors, sur l'analogie avec les Bleus, je comprends très bien. Ils n'ont pas les mêmes données collectives et peut-être pas la même force collective. En tout cas, ce qui en dégage de ce groupe-là, je suis d'accord avec toi, Martin. Et voilà, on a lu beaucoup ces dernières semaines l'histoire du pacte passé par les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, etc. Mais mine de rien, ça dit tout de ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain. Le groupe est focalisé sur un seul objectif. Et il y a l'exemple, évidemment, Choupo-Moting, qui est peut-être le plus beau symbole de tout ça. C'est-à-dire que le mec ne devait pas être là. On le rattrape par le col. On lui dit, si, on a besoin de toi pour cette Ligue des Champions. Il rentre et c'est le super sub parfait. Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur l'analogie Pavard parce que, effectivement, ce supplément d'âme crée ces histoires complètement folles. Choupo-Moting en est une. Et ça prouve que ce Paris Saint-Germain a peut-être définitivement tourné la page de ses démons passés.
Pour revenir sur Choupo-Moting, ça me rappelle un peu Origi l'année dernière de Liverpool. Alors on verra si ça permettra à Paris d'aller aussi loin. Mais on a souvent parlé des individualités du PSG. Là, on sent qu'il y a quand même un collectif. Et peut-être que c'est ce qui leur manquait jusqu'ici. Malgré tout, il y a 2-3 ombres au tableau quand même. Ouais. Alors oui, Di Maria et Mbappé vont revenir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de Navas. Je pense que l'absence de Navas est plus préjudiciable, par exemple, que celle de Di Maria en quart de finale. Parce que Navas, il a un poste clé déjà. Parce que Navas, c'est peut-être la meilleure recrue du Paris Saint-Germain depuis quand même pas mal de temps. Ouais. Et parce qu'il a aussi ce caractère de leader. Il a gagné 3 Ligues des Champions, on le rappelle.
Une force tranquille, ouais, exactement.
Voilà, et il a été décisif quand même à de nombreuses reprises. Voilà, moi, ça m'inquiète un petit peu. L'absence de Verratti, évidemment, surtout face à Leipzig. On sait quand même que le milieu de terrain, c'est ce qui fait quand même basculer les matchs de Leipzig. Et je pense qu'un Verratti, et surtout quand on voit les options qu'il y a derrière, que ce soit Gueye ou Herrera, ils n'ont pas convaincu face à l'Atalanta. Paredes, pourquoi pas, mais ce que je veux dire, entre Verratti et les autres, il y a quand même un gap monstrueux. Donc voilà, pour moi, c'est les deux grosses ombres au tableau qui me font dire que voilà, c'est pas non plus emballé, c'est pesé, quoi.
On va peut-être se pencher sur une individualité qui, elle, est pas absente, mais presque. C'est évidemment Mauro Icardi, puisque son niveau commence à poser problème pour ce Paris Saint-Germain-là. Alors, évidemment, Mauro Icardi, on ne va pas vous retracer tout le fil de sa saison, mais elle est divisée en deux phases très distinctes. Son arrivée, où il est en concurrence avec Edinson Cavani et où il profite au début de la saison de la blessure de Cavani pour planter but sur but et pour faire naître ces fameux 4 fantastiques. Et depuis 2020, c'est des stats très, très compliquées, Martin.
Ouais, c'est 4 buts en 17 matchs. 4 buts en 17 matchs, 0 depuis le restart. Donc, finale Coupe d'Afrique, finale de la Coupe de France, quart finale face à l'Atalanta. Pire que ça, parce que lui, il vit quasiment que par le but. Donc, c'est ça le problème.
Déjà, c'est ça, exactement.
C'est un problème énorme. Mais en plus, face à l'Atalanta, il a été un boulet terrible. Il y a juste une action, quand Neymar part au but, où il sert de point d'appui, où il libère un peu l'espace. Mais on l'a vu faire ça qu'une fois. Moi, j'ai une autre action en tête quand Neymar fait le petit pont. Il crée une différence, il crée une brèche. Et derrière, il ne sait pas quoi faire parce que Icardi fait un appel dans le mauvais tempo. On a l'impression qu'il ne jouait pas, qu'il y en a un qui était en edge et l'autre en 4G. Quoi.
Il y a aussi cette action de Sarabia où Sarabia arrive, déboule sur le côté et centre pour Icardi. Et Icardi a un mètre de retard. Quoi.
Ouais, il est en retard. Il n'y a eu que 4 passes, je crois, entre Neymar et Icardi pendant le match. Donc, si vous voulez, en fait, il annihile tout ce que Neymar fait de bien avant dans la construction. Icardi l'annihile. Parce que je pense que… Alors, je ne remets pas en cause ces caractéristiques. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que Paris a fait une affaire catastrophique en prenant Icardi. C'est peut-être le successeur, évidemment, de Cavani. Mais je pense qu'il est dans une période très compliquée. Peut-être que ça vient du confinement où il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, le fameux travail invisible, etc. Je pense qu'il y a aussi une petite crise de confiance parce que 2020, ça ne s'était pas très bien passé pour lui. Ouais. Malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, est-ce qu'il faut l'enlever ? Est-ce qu'il faut l'enlever, Cyril, selon toi ?
J'ai beaucoup de mal parce que l'avantage d'avoir Icardi, c'est que ça permet aussi de magnifier Mbappé, tout simplement. Avoir une pointe qui pèse comme Icardi, même s'il a tendance à moins peser qu'avant, ça libère quand même des espaces pour Mbappé assez intéressants. Moi, sur Icardi, je trouve aussi que là, on touche à sa grosse limite en Ligue des Champions. Si on regarde tous les grands attaquants des dernières années, les grands avant-centres, je prends un exemple, j'ai cité Firmino, je peux citer Benzema, c'est des numéros 9, même Lewandowski, qui ne peuvent plus se contenter uniquement d'être des purs buteurs. Voilà. Malheureusement, la Ligue des Champions n'autorise plus ce genre de joueurs-là.
Alors, moi, je mets un petit bémol, sauf peut-être quand tu as Neymar et Mbappé et Di Maria.
Exactement. Non, mais justement, là, le fait qu'il n'y ait eu que Neymar, entre guillemets, pendant très longtemps, ça a prouvé que Icardi seul en pointe, malheureusement, ça ne suffisait plus. Et pourtant, en plus, il a la possibilité d'être un vrai attaquant qui fait des différences au contact avec le défenseur, qui permet au bloc équipe de remonter. Enfin, il sait faire ça. Et on l'avait vu au tout début face au Real Madrid pour un de ses premiers matchs où il était complètement à court de forme, mais il avait réussi à faire souffrir la défense centrale madrilène. Là, il y a moins d'efforts et donc, fatalement, ça devient encore plus visible. Moi, je le garderai parce que c'est quand même un sens du but assez incroyable malgré son manque de confiance et surtout parce que ça permet de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions possibles.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand c'est ta plus grosse recrue de l'été, ouais, tu as coûté 50 millions plus des bonus, quand en plus tu en fais le successeur de Cavani, c'est quand même compliqué de ne pas le mettre en demi-finale de la Ligue des Champions, ouais, surtout que derrière, tu as que Choupo-Moting. Alors, Choupo-Moting, c'est le héros du quart, mais malgré tout, ça paraît assez compliqué de l'enlever. Sauf si tu choisis effectivement de mettre Mbappé en pointe, seul en pointe. Moi, je ne suis pas très convaincu par ça, même si Leipzig joue très haut et que voilà, dans le dos, il va faire très très mal Mbappé. Je ne suis pas forcément convaincu par un Mbappé seul en pointe. Après, est-ce que tu dois mettre les quatre et du coup, tu dépouilles ton milieu de terrain et on sait, je le disais tout à l'heure, que le milieu de terrain, c'est quand même le point fort de cette équipe de Leipzig. Ouais. Compliqué, c'est compliqué, très compliqué à gérer. Je pense que tu ne peux pas l'enlever. Voilà, tu ne peux pas l'enlever. Je ne sais pas s'il faudrait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas. Moi, j'enlèverais peut-être quand même parce qu'il me semble quand même hors de forme, ouais, complètement hors de forme. Et c'est un point mort. C'est un point
en fait,
mort.
Ça dépend. Ouais, ça dépend simplement de si Thomas Tuchel veut un peu de contrôle ou si Thomas Tuchel joue la carte du 100% déséquilibre entre guillemets et rentre dans le jeu de Leipzig. Ça peut terminer sur une demi-finale complètement ubuesque avec plein de buts, ou s'il veut un peu plus de contrôle au milieu de terrain, ce qui est quand même la règle habituelle en Ligue des Champions.
On ne va pas trop sortir de son 4-3-3, moi.
Moi non plus. Mais peut-être que Icardi va être sacrifié.
Si il sort pas de son 4-3-3, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de place pour Icardi.
Mais pour moi, le gros enseignement là-dedans, il est presque pour Leonardo. C'est que Icardi a aussi flambé au début de saison parce qu'il y avait Cavani qui était derrière lui et qui trépignait un petit peu d'impatience pour rejouer et pour regagner sa place. L'enseignement, c'est quand même Icardi seul en pointe la saison prochaine. Il y a un risque de relâchement et il va falloir mettre quelqu'un dans ses pattes pour qu'il continue quand même, pour pas qu'il se considère tout de suite indiscutable. Entre guillemets.
Il faut rappeler aussi qu'Icardi a très peu joué de matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Ouais. Je me demande même si ce n'était pas son premier là. Et en Ligue Europa, pareil, avec la sélection d'Argentine, pareil. Enfin, des matchs de cette intensité-là, ouais, avec côté coupe près, il en a assez peu joué. Je ne veux pas croire que ça ait influencé, qu'on puisse expliquer comme ça sa prestation catastrophique, mais peut-être que c'est un élément à prendre en compte. En tout cas, c'est sûr que ça va être un problème à régler assez vite pour Thomas Tuchel parce qu'on ne peut pas gagner une Ligue des Champions avec un avant-centre aussi fantomatique. Enfin, ça me paraît assez compliqué.
Heureusement. En revanche, ouais, on peut gagner une Ligue des Champions avec deux individualités aussi fortes et dominantes que Neymar et Mbappé, Martin.
Ouais, Neymar. Je ne vais pas revenir sur son match parce que moi-même, même sa première période, je l'ai trouvé étincelante parce que oui, il rate de grosses occasions. En revanche, il fait tout. Il fait absolument tout. Et son match met en perspective aussi la pauvreté qu'il y avait autour de lui. Mais qu'un joueur comme ça puisse autant influer sur un match, voilà, il n'y a pas 36 joueurs comme ça. Et sa relation technique avec Mbappé, c'est ça le point fort du Paris Saint-Germain. C'est pas autre chose. Depuis le restart, le PSG sans Mbappé, c'est 0 but en 237 minutes.
Ouais.
Avec Mbappé, le PSG, c'est 3 buts en 63 minutes. C'est dire le poids que prend Kylian Mbappé. Et j'ajoute Neymar, parce que Neymar, souvenez-vous, face à Saint-Etienne, c'est Mbappé qui fait la différence. C'est Neymar qui a la conclusion, mais c'est souvent comme ça. Sur le troisième but, Choupo-Moting, c'est Neymar qui trouve Mbappé, etc. En fait, Neymar, face à l'attentat, il a tout bien fait, sauf le dernier geste.
Ouais.
Mbappé est rentré, et ben voilà, il a retrouvé de la décision dans les 16 derniers mètres. Avec lui, on a un Neymar toujours aussi incisif, mais en plus tranchant dans les derniers mètres. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que Icardi ne proposait pas de solution, parce que Icardi ne proposait pas d'appel, et Sarabia, c'est un peu pareil. Mbappé, lui, lui propose de la profondeur, il lui propose des appels, il lui propose du mouvement. Ce que Icardi et Sarabia ont été incapables de faire. Donc voilà, il a besoin d'Mbappé pour être meilleur. Et Mbappé a également besoin de Neymar parce que ce sont deux génies, deux joueurs qui jouent le même football. Et avec ces deux-là, c'est sûr que dans cet état-là, dans la dernière demi-heure, on l'a vu face à Atalanta, il ne peut pas arriver grand-chose au Paris Saint-Germain quand même, j'ai l'impression.
Je suis complètement d'accord avec toi sur le constat technique et tactique de la présence de ces deux mecs-là dans l'efficacité du Paris Saint-Germain. Je pense que même entre eux, il y a un espèce de… on va pas réutiliser le mot pacte, mais on sait qu'ils s'entendent super bien.
Ah oui.
Mais là, il y a un espèce, voilà, exactement. Il y a un espèce de truc de dire, ok, bah, si ça doit reposer que sur nous deux, on a les épaules assez larges, ça posera pas de problème. Donnez-nous le ballon, nous, on est là pour faire des différences. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette attitude-là de Neymar pendant ce quart de finale où il a été tout seul jusqu'à l'entrée de Mbappé. On va pas se cacher. Et bah, ça a été un peu, alors c'est une autre analogie un peu risquée, mais j'ai retrouvé le Neymar de 2014 où, ok, vous avez besoin d'un leader, ok, bah donnez-moi tout ça, j'assume sans problème. Alors oui, il y a un problème de finition, mais il faut voir toutes les différences qu'il fait quand même. Et en termes d'individualité, je ne sais pas si on trouve énormément de joueurs sur ce plateau final qui sont au niveau technique, tactique et de motivation que Neymar et Mbappé.
J'en vois qu'un, moi. Hein. Allez, peut-être deux, ouais, avec De Bruyne, mais allez, peut-être trois avec Marcelo. Le Lyonnais. Mais non, mais en plus, je suis dur parce que Marcelo, il a fait un super huitième, oui, de finale. Mais c'est évident. C'est évident qu'avec ces deux-là, Paris peut voir très loin. Donc, pour répondre à la question initiale, ouais, ils ont une petite tête quand même, une petite tronche de vainqueur, le Paris Saint-Germain. En tout cas, là, il y a
finale,
tout qui s'aligne.
Il y a tout qui s'aligne. On est d'accord.
Après, il faudra voir la finale parce qu'il y aura forcément sans doute un gros, mais là il y a tout qui s'aligne. On va parler de l'autre club français.
Ouais. Là, la finale, elle paraît beaucoup plus loin quand même. Hein.
Ouais, il y a tout qui s'aligne, mais dans l'autre sens. pour Lyon et Manchester City, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Lyon peut y arriver ? Est-ce que Lyon, un, peut éviter une gifle ? Ça, c'est un premier prérequis pour aller plus loin. Et deux, est-ce que Lyon peut passer cet obstacle Manchester City ? Ça avait été le cas, on se souvient, sous Pep Genesio. Ça donne quelque chose à
se raccrocher. Bruno Genesio.
J'ai dit quoi ?
Pep Genesio, mais ça traduisait parfaitement.
J'ai pas dit Pep Genesio.
Si, à l'instant. Mais c'est normal, il avait fait, faut le dire, c'était la meilleure prestation tactique de l'Olympique Lyonnais sous le mandat de Bruno Genesio, entre guillemets. À ce niveau-là.
Plus, je n'aime pas qu'on l'appelle Pep Genesio, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que Lyon a la moindre chance, Cyril, selon toi, face à Manchester City ?
Alors, on va répondre oui parce que c'est du football, voilà, tout simplement, et parce qu'il y a ce format.
Ça, quand même,
non, mais bien sûr. Non, mais il y a ce format.
Donne-nous quelques motifs d'espoir.
Alors, il y a ce format en un match qui, fatalement, ça maximise les chances de l'Olympique Lyonnais, ou en tout cas, ça les augmente.
C'est sûr, ça donne le plus de chances à ceux qui.
Exactement.
Ont moins,
donc, exactement. Voilà. Ça lisse un petit peu les choses. Moi, je vois un motif peut-être de matière à se rassurer pour l'Olympique Lyonnais, c'est que peut-être le format tactique adopté par les Lyonnais ces derniers temps, à savoir ce 3-5-2 ou 5-3-2, colle peut-être tactiquement à ce qui peut le plus, je dirais pas embêter, mais retarder Manchester City, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans l'axe, il y a aussi des joueurs très travailleurs sur les côtés. Avec de la vitesse, je pense à un Maxwell Cornet qui, bah voilà, à la course, peut aller presque aussi vite que Raheem Sterling, par exemple. Donc, il y a peut-être moyen de retarder l'échéance. En revanche, on ne va pas se cacher, moi, j'ai très, très peur. À partir du moment où il y a 1-0, voilà, et je vois surtout, je ne vois pas cette OL-là aller marquer un but, aller marquer un but à Manchester City, même si Manchester City, ce n'est pas le point fort de défendre, mais je ne les vois pas aller marquer un but.
Ça, c'est le vrai problème, Cyril, pour moi. Ouais. Cette année, City, ils ont perdu contre Wolverhampton, ils ont perdu contre Norwich, donc ils ont perdu quand même contre des équipes. Peut-être que ça leur arrivait moins les années précédentes en ouais. Première Ligue. Le point faible, c'est clair, c'est la défense. Fernandinho, Tamendi, Stones, Garcia, ça. Voilà, ouais. On sait que Guardiola, c'est là où il pêche. Mais, et ça, c'est le gros mais, c'est que depuis que Laporte est revenu, Laporte, il change tout. Laporte, c'est 50 victoires sur ses 59 premiers matchs de Première Ligue. Laporte, il stabilise le tout. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle déjà pour l'Olympique Lyonnais. C'est que quand Laporte est là, eh ben, ce n'est pas le même Manchester City. Mais surtout, pour marquer, OK, il faut une défense peut-être un peu friable, mais déjà, il faut une attaque qui a envie, qui apporte du danger. Lyon, il y a eu deux matchs. Pour l'instant, il y a eu 120 minutes contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu 90 ouais. minutes contre la Juve. Et dans le jeu, il y a eu quoi comme occasion dangereuse ? J'en vois qu'une. C'est le centre de Dubois, un peu vendangé par Dembélé. Je crois que c'est fin de première mi-temps face au PSG en finale. Face à la Juve, je ne vois pas d'énormes occasions dans le jeu, si ce n'est peut-être le cafouillage en fin de match là, sur la tête de Dembélé, etc. Mais dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Depay, c'est clair qu'il est trop court encore. C'est pas le Depay qui va faire des différences balle au pied sur un dribble, sur une course, sur une frappe pour le moment. Les meilleurs Lyonnais, c'est qui ? C'est Marcelo, c'est Lopez, ouais, c'est Aouar, c'est Cacré. Mais le secteur offensif pur pour le moment, eh bien, il pose énormément de questions. Il y a un but contre la Juve, mais c'est sur un pénalty en plus, ouais. Un peu généreux.
Un peu généreux, ouais.
C'est ce qui me pose vraiment question du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est cette incapacité à apporter le danger dans la surface adverse. Tu peux ne pas prendre de but, mais si tu n'en marques pas en quart de finale avec les champions, sauf à espérer amener City au tir au but, mais City c'est plus de 100 buts en première ligue cette saison.
Non, moi je vois pas un 0-0, c'est quasiment impossible.
City, ça paraît compliqué, ouais.
C'est quasiment impossible à tenir. Non, peut-être que la grande chance de Lyon, c'est évidemment aussi des contre-attaques un peu très très rapides menées par Toko Ekambi. On sait qu'il y a Aouar, qu'il y a Guimaraes, Kakré, qui ont cette qualité de passe longue. Mais bon, comme plan de jeu, c'est quand même très très court pour résister à Manchester City et surtout pour espérer aller marquer. Il faudra compter, là sur ce match-là, Memphis Depay, le côté facteur X, c'est peut-être sur ces matchs-là qu'on peut voir s'il appartient encore
à cette… court, pour moi, il est encore court.
Ouais, ouais,
c'est vrai que ces deux systèmes, tu as raison quand tu dis ces deux systèmes qui s'imbriquent bien.
Exactement.
Lyon et celui de Manchester City.
On sait déjà la physionomie du match. A priori, il n'y a pas de secret. 80% de possession pour City et Lyon qui fait un peu ce qu'il peut quand il peut. Bon, j'ai quand même, si on s'avance très honnêtement, je vois mal comment Lyon pourrait passer et je vois surtout mal comment Lyon pourrait éviter une défaite assez lourde. Parce que je pense que City, si marque en première mi-temps, voire dès les 20 premières minutes, à partir de là, ce sera trop dur.
La clé, c'est éteindre De Bruyne, éteindre son influence, la réduire au possible. Mais ça, tout le monde essaye, personne n'y arrive. Après, avec le milieu lyonnais, qui est la force quand même de l'OL.
Ouais.
Mais bon, c'est la force de l'OL. Mais là, quand même, ils se confrontent à ce qui se fait de mieux, sans doute, ou presque. C'est d'éteindre De Bruyne et de profiter et que chaque… opportunité à Lyon.
Ouais, exactement.
C'est pas ce qu'on a vu de Lyon jusqu'ici. Donc, est-ce qu'un Dembélé dans un match comme ça,
je pense qu'il ne jouera pas. Je pense que Rudy Garcia, il y a pas de raison de changer ce truc-là. Il a besoin d'un joueur de mouvement devant et
Ekambi est beaucoup plus face à la Juve.
Non, c'est pas. Mais ça correspond plus au plan de jeu. Ils ont besoin d'un mec qui peut faire des différences par la vitesse, par la mobilité, par les appels. Dembélé, c'est plus un joueur de surface. Et là, il risque de servir à pas grand-chose face à Manchester City.
Ouais, on est bien d'accord. Donc, on souhaite bon courage à l'Olympique Lyonnais.
Dis donc, on peut aller brûler un cierge, hein, j'ai l'impression, pour Rudy Garcia et l'Olympique Lyonnais, là, après avoir dit tout ça.
Moi, je vais à Fourvière juste après, là, dans la cathédrale. Je vais brûler un petit cierge pour nos amis et nos amis lyonnais. On termine cette émission avec Blaise Matuidi, mon ami Cyril.
Bien sûr, notre blaisou national.
Alors, c'est quand même le transfert qu'on n'avait pas vu arriver, celui-ci. Hein.
Ouais, c'est clair.
Alors, ça s'est fait en deux temps. Premier temps, Pirlo ne veut plus de Matuidi. 24 heures après, il était à Miami. À Inter Miami. Ouais. Quand j'ai reçu le truc, j'ai lu Inter Milan, tellement j'avais du mal à saisir que Blaise Matuidi aille à l'Inter Miami. Pourquoi j'ai du mal à saisir? Parce que, OK, Blaise Matuidi, ce n'était pas non plus un incontournable de la Juve, malgré tout. Il était important.
Ouais.
Et puis, sa carrière, elle parle pour lui. Moi, je trouve ça, d'un point de vue purement personnel, un peu dommage de le voir partir. Il a 33 ans, Blaise Matuidi.
Ouais.
Après, il a fait une grosse carrière. Il a gagné beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il lui manque quand même la Ligue des Champions. Mais bon, il est champion du monde, etc. Je pense que c'est un choix de vie, etc. Et je ne remets pas du tout en cause ça. Le problème, Cyril, pour Blaise Matuidi, c'est l'équipe de France. Est-ce que Didier Deschamps va prendre le risque de sélectionner à l'Euro 2021 un joueur qui joue en MLS, la MLS qui est quand même loin des standards du très haut niveau?
Ouais, vraie question, Martin. Tu as raison. Alors moi, ma première réponse serait de dire que je ne m'en ferais pas trop pour Blaise Matuidi. En fait, je pense que ce transfert-là, entre Matuidi et Deschamps, la relation, elle est très fluide. C'est un des soldats de base de Didier Deschamps. Et je pense que Deschamps a été mis au courant de cette volonté de Matuidi. Peut-être que le coronavirus a aussi bouleversé les plans. Peut-être que Blaise Matuidi avait l'intention de se retirer après l'Euro 2020. On n'en est pas là.
Je pense qu'il voulait prendre sa retraite après l'Euro et après partir aux États-Unis. Je pense que c'est dans sa tête depuis longtemps.
Ouais, c'est possible. Après, si Blaise Matuidi ne tire pas un trait sur sa carrière internationale, ça ne m'étonnerait pas de le voir dans la liste française l'été prochain. Parce que, comme on le dit, Deschamps… Alors, il y a un discours très pragmatique, c'est vrai, mais il y a quand même une fidélité sans faille à des joueurs qui lui ont rendu des services pendant très longtemps. Il y a le cas Giroud, mais ce n'est pas le seul. Matuidi, c'est quand même un des soldats de base de Didier Deschamps. Et il a un profil aussi… polyvalent que Deschamps apprécie, c'est-à-dire que Matuidi, on peut le mettre arrière-gauche, défenseur central, attaquant de pointe, ailier gauche. Vous savez qu'il fera tout ce qu'il faut pour être au niveau. La Coupe du Monde 2018 en est encore le meilleur exemple. Donc oui, je vois que Martin, tu hoches de la tête, je vais te laisser la parole.
Je pense
que la fidélité Deschamps-Matuidi peut survivre à une année en MLS.
Deschamps, ce qui le guide, c'est les résultats. Ce qu'il guide, ce qu'il veut avant tout, c'est que son équipe gagne des matchs. Ouais. S'il faut sacrifier des joueurs, il les sacrifiera. Cabaye, quand il est parti à Crystal Palace, ou que voilà, il s'en est séparé. Oui. Mamadou Sakho, quand il a eu des problèmes, etc. Quand il a aussi sportivement, en termes de compétitivité, les clubs dans lesquels il jouait n'ont plus été à la hauteur, il s'en est séparé. Pourtant, Sakho, c'était un guerrier, c'était un soldat. C'est le mec qui a amené les Bleus à la Coupe du Monde 2014. Ouais. À un moment, Deschamps, il n'est pas non plus que dans le sentiment. Tu me diras, Matuidi, il n'est pas… son histoire avec l'équipe de France est beaucoup plus riche que celle de Cabaye et de Sakho.
Voilà, c'est oui, ça quand même.
Mais Matuidi, il part en MLS. Il part à l'Inter Miami. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas Giroud qui joue moins du côté de Chelsea ou d'Arsenal. Et surtout, pourquoi Giroud était là? Parce qu'il a un profil unique, parce que la concurrence derrière avait du mal à se faire une place. Quand on parle de concurrence au poste de Blaise Matuidi, mais je peux te sortir un nombre de joueurs, il y a quand même un Eduardo Camavinga qui va découvrir la Ligue des Champions cette année, qui a été monstrueux avec Rennes. Si il continue sa progression en Ligue des Champions, on sait que c'est la valeur cardinale pour Didier ouais. Deschamps. Attention à Ouar, qui est en train de faire de belles choses aussi cet été avec l'Olympique Lyonnais, et même un Cacré. Qui sait si Cacré fait une saison complète avec l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même… À son poste, il y a un nombre de joueurs absolument incalculable au milieu de terrain. Je ne parle même pas d'Ndombele qui, lui, est aussi dans le… Alors oui, ce n'est pas des joueurs qui vont jouer ailier gauche, mais ça ressemble quand même à une rustine. Je veux dire, tu ne vas pas jouer avec Matuidi ailier gauche jusqu'à la fin de tes jours avec l'équipe de France et jusqu'au Qatar ou jusqu'aux États-Unis 2026.
Alors,
voilà. Donc, oui, il y a une fidélité, mais Deschamps est fidèle jusqu'à un certain point quand même.
Ok, alors pour reprendre l'argument Giroud, il n'y avait pas de concurrence. Il y a quand même beaucoup de talents français devant.
La casette, il faisait pas la main. Il y a Didier Deschamps.
C'est voilà. Même pas uniquement la casette, c'est qu'il y a quand même aussi du monde dans le secteur offensif des Bleus. Je pense qu'à une certaine époque, en tout cas, il y avait de la concurrence pour Giroud et qu'il a eu totalement raison de garder sa confiance envers Olivier Giroud. Moi, il y a un autre point que j'ai envie de soulever concernant Blaise Matuidi, c'est que on va parler de professionnalisme. Et quand on dit professionnalisme, c'est vraiment si Matuidi assure à Deschamps, je vais revenir, je serai là. Si tu me prends pour l'Euro, je vais revenir à 120% de mes capacités physiques. Je vais travailler comme un gueudin. Alors oui, j'aurais évolué un an en MLS, mais les 15 ans d'avant, j'étais dans tous les plus grands clubs européens et j'ai prouvé que mon éthique de travail au quotidien me permettait de garder un certain niveau. Blaise Matuidi, dans un an, il aura juste 34 ans, mais il aura le même niveau, grosso modo, s'il le veut. Et s'il,
Après un an en MLS, tu peux… Fin... Voilà, le haut niveau, c'est aussi la répétition des efforts.
Bien sûr, mais il y a une éthique de travail chez Matuidi qui est, je pense, différente chez beaucoup de joueurs. Et je pense que si Matuidi assure à Didier Deschamps qu'il sera en capacité d'être là et d'être très en forme pour l'Euro 2021, Deschamps lui fera confiance.
Je vais reprendre les déclarations de Matuidi hein, quand il a annoncé son départ à l'Inter Miami. Je crois que c'était à Brostoris, je crois. Hein. Il dit « On ne va pas se mentir, cette décision peut avoir un impact sur ma carrière internationale. J'en discutais avec le sélectionneur. Je suis prêt à tout entendre à ce niveau-là. » Il dit aussi, si on m'appelle pour jouer arrière-gauche, défenseur central, gardien, je répondrai présent. Je le pense vraiment, mais je sais bien sûr aussi être réaliste. Donc, c'est-à-dire que lui aussi, il sait qu'en partant en MLS, bah, il va se donner moins de moyens d'être à l'Euro. Et je pense qu'il en a discuté avec Deschamps et que Deschamps était franc avec lui. Enfin, c'est en tout cas ce qui transpire. Deschamps, il ne peut pas lui dire « Ok, tu pars en MLS, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, tu seras… »
Non, bien sûr que non.
Et oui, il y a le cas Gignac qui joue au Mexique. Et c'est pareil, il y avait un tarissement derrière Giroud, il y avait un problème de concurrence là aussi, pas de tête qui émergeait. Encore une fois, en termes de concurrence, le milieu de terrain des Bleus, mais prenez l'équipe de France Espoir. Enfin, il y a s'il se trouve un club, il y a un nombre de…
Il y a aussi, moi, enfin, dans tous les noms que tu as cités, Aouar, bah, ce n'est pas la première saison qu'il joue, il n'a encore jamais été appelé par Didier Deschamps. Cacré, va falloir encore aussi montrer sur toute une saison. Voilà, donc évidemment, il y a Camavinga, ok. Pour moi, ce n'est pas exactement le même poste en plus. Et encore une fois, le niveau international, ça, on sait que Blaise Matuidi, là, il a un CV en équipe de France qui parle pour lui. Et c'est pas… Enfin, on sait que ce niveau-là, il l'a. Or, sur tous ceux que tu as évoqués avant, on ne sait pas encore s'ils ont ce niveau-là. Oui, et ça, c'est une assurance en août 2020.
Oui. Tu as même du Moussa Sissoko, tu as même, enfin, je veux dire, au milieu de terrain, sans parler de Pogba et Kanté, qui sont bon, les deux énormes individualités, mais tu as une richesse, une variété de profils et une profondeur où je pense que tu n'as pas dans les autres postes de l'équipe de France. Voilà. Peut-être au poste de défenseur central aujourd'hui, où tu as quand même de nombreux jeunes qui sont en train de percer, mais au poste de milieu, franchement, tu peux faire quatre équipes de France. Mathieu aujourd'hui qui s'en va en MLS. Il se met un peu de côté quand même. Voilà. Bon, on ne réussira pas à nous mettre d'accord. Dites-nous
ce que vous en pensez. Ouais, c'est surtout Didier Deschamps qui devra nous donner les premières pistes dès la rentrée.
Alors, à la rentrée, il sera peut-être. Ce n'est pas ça l'enjeu. Hein. Mais,
non, mais il sera fatalement interrogé là-dessus. Est-ce que, je pense que Didier Deschamps répondra franchement à ce genre de questions-là.
Tout à fait, Cyril. Écoute, ce fut un bonheur de partager cette journée avec toi, Cyril, et je sais qu'en plus c'est pas terminé, donc autant te dire que là ce vendredi est en train de passer dans les plus belles journées de ma vie.
On espère que c'est une des plus belles journées de la vie de nos auditeurs, peut-être, Martin.
Il y a eu mon mariage, il y a eu la naissance de mon fils et il y a aujourd'hui, Cyril. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de me marier avec toi et de renaître aussi. On se donne rendez-vous quand, Cyril ? On se donne rendez-vous la semaine prochaine ?
Bien sûr, évidemment, dès le mercredi avec Mercredi Mercato. Le vendredi, évidemment, avec le FC Stream Team qui sera, petit indice, probablement autour de la Ligue des Champions et de la finale du dimanche 23. D'ici là, évidemment, vous retrouvez le FC Stream Team en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et vous retrouvez tous les extraits vidéo sur eurosport.fr. Rendez-vous aussi sur eurosport.fr pour suivre toute l'actualité de la Ligue des Champions et du football en général.
On remercie Quentin Guichard pour les visuels, on remercie Anne Thirion pour le montage, on remercie Cyrène Morin pour je ne sais quoi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut, ciao,
salut
ciao.
Tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.